Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ce journal s'ouvre par les garanties du président du Sénat à la délégation d'une mission électorale des Nations Unies en rapport avec les préparatifs des élections en RDC. Pour Modeste Bahati Lukwebo, rien à craindre, le pouvoir en place tient à la tenue et dans le délai des élections inclusives et transparentes. De la sécurité, il en sera question dans cette édition avec ces trois civils signalés tués dans le Nord Kivu. C'est au niveau de la barrière Lukweti érigée par les FRDC. Valentin Mitendol est l'invité que nous recevons dans cette édition de midi. Il est président du Centre congolais de l'Institut international du théâtre. Il intervient en marge de la 60e édition de la Journée mondiale du théâtre commémorée aujourd'hui. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À la présentation de ce journal de midi sur Radio Okapi, Billy Ivan Lutumba. Le président du Sénat rassure les émissaires de l'ONU sur la volonté du chef de l'État de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Au cours d'une rencontre hier samedi à son cabinet avec une délégation des Nations Unies venue de New York, Modeste Bahati Lukwebo a souligné la disponibilité du Sénat à traiter en toute urgence, en seconde lecture, les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. Conduite par le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, cette mission de l'ONU venue en RDC pour évaluer le processus électoral devant mener aux élections de 2023 explique l'objet de la mission. Simon Pierre est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une mission d'évaluation des besoins électoraux que les Nations Unies ont déployée en République démocratique du Congo en réponse à une requête reçue des autorités du pays pour un accompagnement du processus électoral qui vient. L'objectif est de venir s'entretenir, échanger avec les principaux acteurs du processus électoral, évaluer ensemble le contexte global dans lequel le processus électoral va se dérouler, identifier les principaux défis, les différentes contraintes, leurs besoins pour que le processus électoral se déroule de la manière la plus transparente, la plus inclusive possible. Étant président du Sénat, nous avons essayé de savoir un peu plus ce qui était prévu à l'ordre du jour, nous rassurer que des discussions sont en cours, la plénière va se réunir demain, mais on a touché à différentes questions, notamment à ce qui est prévu en termes de révision de la législation électorale.
Au Kassai oriental, quel est le profil du futur candidat gouverneur de province? C'est l'un des thèmes abordés au cours du séminaire atelier sur les enjeux électoraux et le développement du Kassai oriental, laissant à prise des perspectives. Ces travaux de deux jours ont été organisés en Mbujimayi par l'ONG Action pour le développement et la gestion des ressources naturelles, ADGRN, et financés par la fondation allemande Hans Seidel. D'après le chargé des programmes à l'ADGRN, le but est de sensibiliser les acteurs politiques, ceux de la société civile et la population sur les élections qui se pointent à l'horizon et aussi informer les grands électeurs, dont les députés provinciaux, sur le profil du futur candidat gouverneur de la province du Kassai oriental. Des explications avec Esther Dalafina.
Pendant deux jours, les participants ont été édifiés sur quatre thèmes, dont notamment l'état des lieux des cycles électoraux en RDC de 2006 à 2018. Quel profil pour le futur gouverneur de la province du Kassai oriental, thème qui a attiré l'attention des participants. Maître Marceline Moussassoua, du collectif des femmes avocates pour la promotion des droits humains, a apprécié le critérium du futur candidat gouverneur de province décrit au cours de ses travaux.
Une personne déjà qui pourrait partager les mêmes valeurs que le peuple pour lequel il sera au service, connaître les réalités de la province, les réalités sociales, sentir redevable envers la population.
Selon Charles Bassekaï, le profil du candidat gouverneur est souvent défini par les partis politiques. Cependant, ce profil ne répond toujours pas aux attentes de la population. Quel est l'impact de ces travaux à cette période où les partis politiques ont déjà déposé à la CENI les dossiers des candidats futurs gouverneur, réponse de Bafou Mukuna, chargé des programmes à l'ADGRN.
Il faut alors que les grands électeurs prennent en considération ce que la population pense.
Signalons que ces travaux rentrent dans le cadre du projet axé sur la démocratie et la bonne gouvernance implémenté par l'ADGRN. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Sécurité à présent au Nord Kivu. Au moins 3 personnes ont été tuées depuis le début de cette année au niveau des barrières tenues par les éléments des FRDC dans le territoire de Masisi. Le député provincial Alexis Baonga, qui donne cette information, qualifie ces actes d'une barbarie et souhaite que la justice soit rendue aux victimes de ces actes. Cet élu de Masisi indique que l'incident a eu lieu au niveau de Lukweti, où la victime nommée Mapendo Amoli, 26 ans, n'a pas pu payer la somme de 3000 francs qui lui a été exigée par des militaires comme droit de passage et pour ses visiteurs. Le député dénonce ce énième incident du genre et demande aux autorités que ce militaire, auteur de cet acte déjà aux arrêts, soit jugé en flagrance pour donner une leçon. Alexis Barunga.
Donc moi, comme député de la zone, je continue à condamner ces agissements de la part de certains éléments de FRDC. Il n'y a pas très longtemps, on avait tué l'élève à Luachi, toujours par un élément FRDC à la barrière. Il y a encore un mois maximum, on a tué notre papa âgé de 70 ans, toujours à Luachi, toujours à la barrière, où on lui exigeait aussi de payer 500 francs. Donc c'est devenu une habitude pour certains éléments de FRDC de commencer pratiquement à ériger certaines barrières et faire payer de l'argent. Et si les gens ne payent pas, eh bien la solution, c'est de tuer la population. Je condamne, je dénonce ce qui s'est passé à Lukweti. Nous demandons d'ailleurs aux autorités militaires au niveau de la province, à l'administrateur territoire de Masisi, de tout faire pour qu'une audience de flagrance soit organisée à Masisi Centre, au besoin à Lukweti. Cela permettra un procès exemplaire soit tenu et que les autres militaires qui se laissent entraîner dans des bavures pareilles puissent avoir peur et ne commettent plus des actions pareilles sur la population.
Contacter les autorités militaires confirme l'arrestation du soldat impliqué dans ce meurtre et son jugement est attendu dans un futur proche. À Ituri, le vice-gouverneur lance un appel au groupe armé Codeco à déposer les armes. Selon lui, ces miliciens appauvrissent la population et entravent le développement de cette entité territoriale qui est pourtant riche en minerais avec un sol très fertile. De nombreux enfants ne vont pas à l'école, les activités champêtres sont suspendues dans plusieurs localités dont les habitants sont en fuite. Il l'a dit au cours d'un meeting vendredi à l'occasion de l'inauguration du bureau du tribunal de paix et du parquet des Djougou Centre. Benjamin Alongaboni est au micro de Isaac Remoyope.
Pourquoi des tueries? Pourquoi des animosités? Alors que nous sommes riches, mais nous devenons de plus en plus pauvres.
Djougou a de l'or. Djougou a des terres arables très fertiles. Mais pourquoi Djougou ne prospère pas?
Comment ces petits enfants ne peuvent pas aller étudier tranquillement, manger de façon convenable, pour que demain deviennent aussi des responsables? Pourquoi?
Mais c'est justement à cause de Codeco que les ressortissants de Djougou sont devenus pauvres. Djougou qui produisait 3 fois l'an les haricots. Djougou nourrissait Kinshasa, Kisangani, presque toute la République. Mais aujourd'hui, Djougou ne fait pas le quand on voit les gens, on voit la pauvreté. C'est Codeco qui a appauvri la population. Mais jusqu'à quand? Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes Codeco qui prennent en otage les ressortissants du territoire des Djougou. Ça ne nous arrange pas. Cela ne nous valorise pas. Dites à nos frères égarés que vous connaissez. Dites-leur que chaque activité a un début et une fin. Ils ne pensent pas qu'ils seront éternellement agressifs, tués, rendre appauvrir la population et ainsi de suite. Tout a un commencement et une fin.
Dans la province du Maniema, la cellule d'information, sélection et orientation des FRDC à Kindu a lancé ce week-end la 5e vague de recrutement des troupes officiers et sous-officiers des différentes écoles et formations des FRDC. Ainsi donc, pour la réussite de cette opération de 25 jours, le chef de cette cellule, le lieutenant-colonel Mopio Mbama Samro, appelle à l'implication de tous pour sensibiliser les jeunes volontaires à venir servir le pays sous le drapeau. Mopio Mbama Samro revient sur son appel au micro de Florence Kizalunga.
En ce jour ici, nous venons de lancer 5e vague de recrutement troupes comme militaires du rang dans toute étendue de la province du Maniema, sans oublier aussi l'inscription des élèves officiers, élèves sous-officiers et différentes écoles et formations des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous cherchons à inscrire les licenciés en droit, les gradués, les médecins généralistes, pharmaciens, les médecins dentistes et les techniciens. Nous lançons l'appel aux autorités politico-administratives, policières, religieuses, culturelles, scientifiques, coutumières, associations sportives, artistes et organes de la presse de nous accompagner dans nos missions régaliennes reçues de l'échelon supérieur de recrutement et d'inscrire les élèves officiers. Vous savez, nous sommes dans le cadre de la réforme de nos forces de défense et de sécurité. Comme il y a un système de retraite, nous devons recruter pour combler le vide laissé par la retraite, les décès, les invalides, sans oublier aussi les déserteurs et de rajeunir aussi les forces de défense et de sécurité.
L'actualité nous amène au Kassai oriental où les travaux de construction, de réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Mbujimayi sont à ce jour exécutés à près de 70% dans sa première phase consacrée à la composante infrastructure. Prévue pour 24 mois, l'entreprise Shin Jiang International Corporation qui exécute les travaux s'occupe actuellement du remblayage du nouveau tarmac. Les travaux d'installation de la centrale d'enrobage à chaud et des quelques matériels de sûreté aéroportuaire sont aussi presque terminés. Plusieurs matériaux sont déjà sur place pour permettre à l'entreprise Xinjiang International Corporation d'accélérer les travaux, affirme ainsi le commandant de la régie des voies aériennes. Des explications avec Esther Dalafina.
Les travaux de construction, de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Mbujimayi se poursuivent sans désemparer. Le nouveau tarmac aura la dimension de 250 mètres de long et 110 mètres de largeur. Par rapport au volume, 8 mètres de hauteur de sable sont en train d'être remblayés, puis seront compactés par l'entreprise China Jiangjin International Corporation, comme explique Jean-Baptiste Lama, coordonnateur du bureau de contrôle Interplane.
Notre problème ce jour, c'est d'augmenter de 1000 pour arriver à peu près à 3000 mètres cubes jour. Il faut augmenter le nombre de camions et l'entreprise annonce déjà l'arrivée de 4 camions supplémentaires et il faut augmenter les heures de travail, travailler de jour et la nuit.
Côté technique, Romain Chinyamakabongo, commandant de la régie des voies aériennes, affirme que certains matériels pour l'aéronautique ont déjà été installés.
Il y a le Divor, le Vor Doppler qui a déjà été installé. Et là, il est finalisé à 95%. Il ne reste plus que l'installation de la mise à terre qu'on appelle les parafoudres qui seront faits.
Prévu pour 24 mois, les travaux peuvent se terminer peu avant le délai. Déclaration de Jean-Baptiste Lama de l'Interline.
Nous sommes dans la logique de réduire le temps d'exécution à peu près 18 mois.
Signalons que l'aéroport de Bipemba aura une autonomie en énergie électrique. Plus de 800 panneaux solaires sont déjà arrivés sur place. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Bien avant de vous faire un point d'information en dehors de notre pays, sachez que dans la province de la Tchopo, plus de 50 couples ont été unis dans les liens de mariage civilis samedi dans la commune de la Tchopo à Kisangani. Ceci dans le cadre de la campagne de gratuité décrétée par le gouvernement provincial et ce, pour célébrer le mois de la femme. La cérémonie s'est déroulée devant l'esplanade du bureau communal de la Tchopo. Reportage de Jacques Moukonkole.
En ma qualité d'officier de l'état civil, me donnant compétence pour la célébration du mariage civil, je vous déclare légalement unis par le lien du mariage. Et je remets cet extrait à Monsieur Saïdi Lioto Michel en sa qualité de chef de l'association conjugale. Mes très sincères félicitations.
C'est par cette formule que le bourgmestre de la commune Tchopo, Didier Lomoyo Itekou, a uni par le lien de mariage le couple Michel Saïdi Lioto. Ce fonctionnaire de la 2GM, âgé de 80 deux ans et l'un de mari ayant contracté le mariage avec leur femme. Veuf après plusieurs années, il dit avoir contracté un nouveau mariage pour un nouveau départ plutôt que de rester célibataire. Michel Saïdi Lioto.
Une belle vie au lieu de rester célibataire tout le temps. Alors j'ai trouvé mieux d'avoir à côté de moi une autre épouse avec laquelle nous sommes en train de passer d'abord le mariage civil comme la situation a été passée hier et puis on va continuer jusqu'au mariage religieux.
Son épouse dit avoir consenti ce mariage pour la sécurité conjugale et même familiale. Présente à cette cérémonie, la ministre provinciale du genre, Albertine Likoke, s'est réjouie de l'engouement suscité par cette campagne qui se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Afin d'empêcher que la forêt soit envahie par la ville, la Côte d'Ivoire a décidé de la protéger en construisant des murs. D'ici quelques mois, le parc national du Banco à Abidjan sera entouré sur 10 km d'une clôture. La réserve naturelle est l'une des deux seules forêts vierges au monde à avoir survécu au cœur d'une métropole. Du personnel de sécurité patrouille la forêt afin d'éviter que les habitants des quartiers voisins ne viennent se servir en bois ou chasser la faune pour se nourrir. Un garde de sécurité a été tué lors de l'attaque de l'aéroport de Kaduna au Nigeria samedi. Des hommes lourdement armés ont attaqué le lieu, interrompant momentanément le trafic aérien. Le commissaire à la sécurité de l'état de Kaduna, Samuel Arouan, a déclaré que les soldats situés à l'intérieur et autour de l'aéroport ont réussi à repousser les assaillants après que la garde de sécurité donne l'alerte. Il venait de les voir lorsqu'il a été abattu par balle.
L'invité.
Le monde célèbre aujourd'hui la 60e édition de la Journée mondiale du théâtre. Radio Okapi reçoit Valentin Mitendo Mwadi Yinda, président du Centre congolais de l'Institut international du théâtre et directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants. Selon lui, le théâtre est une discipline vitale pour l'existence de l'humanité, mais il déplore cependant le manque de soutien dont cet art fait face en RDC. Valentin Mitendo plaide ainsi pour l'organisation prochaine des États généraux du théâtre, dont la dernière édition a eu lieu il y a 37 ans. Valentin Mitendo s'entretient avec Jean-Marc Matwaki.
Monsieur Valentin Mitendo Mwadi Yinda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Centre congolais de l'Institut international du théâtre. Aujourd'hui, le monde célèbre les théâtres. Quel est l'état des lieux que, à votre niveau, vous pouvez faire sur la pratique de ces métiers en République démocratique du Congo?
Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2022. C'est la journée mondiale du théâtre dans le monde entier. En Afrique, en Asie et partout, plus de 155 centres y sont en phase en train de célébrer le théâtre comme discipline vitale pour l'existence de l'humanité et de l'homme. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un vrai problème, mais aussi on a une espèce d'euphorie. Au-delà de ce que la pandémie mondiale a créé, au-delà de ce que cette pandémie a freiné, il reste une volonté, il reste une envie de faire du théâtre. De faire du théâtre comme élément ou, j'allais dire, outil pédagogique, mais outil de développement. Et en ce moment, en République démocratique du Congo, nous avons une grosse affaire belle. Le théâtre n'est pas subventionné. Personne ne tient compte de ce qui se passe. Or, c'est l'instrument que nous avons pour pouvoir sensibiliser les masses, pour pouvoir aider la population à accéder à une certaine information. Le théâtre congolais est en ce moment pratiqué aux trois quarts par des privés. Le seul que nous avons comme théâtre national souffre de subventions. Si on paye un peu de salaire et encore, mais il y a un vrai problème. Le théâtre national n'est plus l'émanation de ce qu'il devrait être parce qu'il n'a pas le moyen. Nous, les privés, nous nous battons, nous nous débrouillons pour que nous puissions être le point de transmission des messages du gouvernement, de la société, des communautés, pour que les gens sachent comment avancer. C'est pour ça que je suis en train de demander, et avec insistance, à ce que notre ministère, le ministère de la Culture et des Arts, puisse absolument organiser les états généraux du théâtre en République démocratique. Ça fait 37 ans. Depuis que les derniers états généraux ont été organisés.
Si on doit parler du théâtre à travers le pays, est-ce qu'on va dire qu'il y a une certaine dynamique en termes d'espace et d'acteurs de la scène théâtrale?
Mais écoutez, depuis 1991, il y a eu dans la ville de Kinshasa ce qu'on appelait le théâtre en cité. Vous vous rendez compte que le théâtre a quitté le boulevard du 30 juin pour entrer en cité. Je parle de Marabout, je parle de Tam Tam Théâtre, je parle des Intrigants, je parle de toutes les pièces Mondo Théâtre. Les gens ont investi l'espace vital de notre ville. Mais aussi en province, il y a des balbutiements qui sont importants. Il y a quelque part des troupes qui se sont organisées. Vous marchez d'ailleurs en tête sur cette lancée-là. Mais par contre, c'était des brouillards tous. Moi et eux, nous sommes tous des débrouillards. Mais c'est une politique nationale du théâtre, de la gestion de la chose théâtrale, qui doit être mise en place.
Monsieur Mitendo, la RDC fait face à de nombreux défis dans divers domaines de la vie. Il y a cette problématique de la paix, de la sécurité, du développement, du social. Comment peut-on utiliser le théâtre parmi les pistes des solutions pour justement relever ces défis?
Mais Jeannot, vous êtes un homme extraordinaire. Vous vous souvenez, il y a de cela, je crois, 2-3 ans, même 4 ans, c'est sur vos antennes que j'avais lancé l'idée qu'il fallait un festival à Goma, quand la guerre était au comble. J'ai dit, il faut un festival. Le festival, ce n'est pas pour faire la fête, mais c'est un lieu où on parle, c'est un lieu où on échange, c'est un lieu où on regarde les problèmes et on essaie de trouver les solutions. Et à cette époque, j'ai dit, il faut que, vous voyez, aujourd'hui, nous avons le festival à Mani, qu'on le veuille ou non, c'est sur vos antennes que j'avais suggéré. Aujourd'hui, nous avons le grand problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'échanges. Nous n'avons pas suffisamment de moments de rencontre, de moments où on partage le point de vue, même le point de vue le plus douloureux. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, le théâtre reste le seul instrument. Ne prenons pas le théâtre comme c'est des acteurs qui jouent et puis des autres qui applaudissent. Non, le théâtre comme espace d'échange, le théâtre comme espace de partage, le théâtre comme espace de communication. Et ça, ça nous manque en ce moment-ci. Le festival à Mani à l'Est est déjà très en vue, mais il reste d'autres espaces. Il faut faire des choses.
Monsieur Valentin Mitendo Mwadi-Indra, vous êtes le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants et président du Centre Congolais de l'Institut International du Théâtre. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Jeannot.
À vous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de journal préparée par Pierrot Elamiji, Noëlla Lozitou, Mimi qui nous a assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Van Lutumba vous la présenter.